FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Vendredi 22 décembre 2023, c'est la fête des maisons des habitants à Échirolles. Et nous voici de retour, toujours en direct depuis la salle des fêtes d'Échirolles, où se tient la fête des maisons des habitants de la ville, avec un spectacle de magie qui est en cours de route. Je suis du coup obligé d'en priver Julien et Fabien de ce spectacle qui mêle à la fois humour, clown et magie. Le temps d'en savoir un petit peu plus sur qui vous êtes, et puis nous parler un petit peu de ce travail que font les maisons des habitants auprès justement du public, de la population. Ferme vite la porte s'il te plaît, c'est bruyant à l'extérieur. Voilà, on a Alessio qui vient d'arriver, l'air de mine de rien. Donc bonjour à tous les deux. D'abord, merci bonjour. D'être avec nous sur l'antenne de News FM. Alors, je le disais tout à l'heure, donc Fabien, toi, tu travailles à la maison des habitants Essart-sur-Yeux. On a eu ta directrice, Nathalie, qui est venue nous en parler. Par contre, Julien, toi, tu travailles du côté de la maison des habitants Village Sud, anciennement Village 2, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu Échirolles. Alors, ça peut être intéressant, effectivement, Julien, que tu puisses commencer par nous expliquer un peu, voilà, l'emplacement de la maison par rapport au village sud, par rapport à d'autres quartiers comme les Essarts. Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités, ou les maisons des habitants font toutes à peu près le même travail? On laisse sortir Alessio. Vas-y. Il était juste venu chercher ses affaires. Merci à toi aussi. Bonne fête. Donc Alessio qui était en stage avec nous cette semaine. Voilà, donc, effectivement, est-ce que les maisons des habitants sont un petit peu différentes les unes des autres?
Oui, toutes leurs spécificités, avec aussi chacune des axes de travail communs. Donc nous, au niveau Village Sud, on est juste à la frontière de Pont-de-Clé. Et depuis cette année, on a aussi le secteur centre qui a été récupéré. Donc finalement, secteur d'intervention assez important. Au niveau de ce qui est commun, et ben, ça va être toutes les actions liées à l'accès au droit, l'aide administrative pour les habitants, tout ce qui est démarche numérique par exemple. Et puis après, moi en tant qu'agent de développement, je vais gérer un peu tous nos projets. Donc ça peut être l'organisation de temps festifs comme aujourd'hui, pour essayer de contribuer à ce qu'on appelle le développement social, donc, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui vont favoriser le bien-être des habitants sur un peu tous les domaines de la vie. Donc ça peut être la parentalité avec de l'aide aux devoirs, ça peut être des ateliers créatifs, apprendre aussi autrement que par l'école, par le jeu par exemple, durant des temps de ludothèque, donc toujours parents-enfants. Donc nous on est vraiment sur un lien fort et quotidien avec les habitants, les parents et les enfants. On propose des sorties aussi pendant les vacances, ça peut être des sorties dans des lacs pendant l'été, des sorties à la neige pour l'hiver. On propose aussi de l'aide pour tout ce qui est apprentissage du français, des ateliers créatifs, ateliers vidéo pour les enfants. Donc on a beaucoup de volets d'action et on essaie un petit peu de rayonner sur tous les champs de la vie en fait.
Voilà. Du coup, je ne sais pas si Fabien, tu vas avoir d'autres choses à rajouter, parce que Julien a fait une présentation assez complète du travail que vous avez à faire. Donc j'imagine que vous avez la même fonction, donc c'est sensiblement le même genre de travail, Fabien, que tu fais de ton côté?
Oui, en fait, c'est ça, hein. Julien a tout dit. Après, ce qui est intéressant selon les secteurs, c'est que comme nous, en tant qu'ADS, on travaille avec les habitants sur leurs projets, on est là pour aussi les aider à accompagner leur projet. En fait, ça dépend vraiment des habitants et de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils ont par exemple, là, à Village Sud, il y a des projets sur la place des Pères. Nous, il y a un projet de Repair Café. Voilà, parce qu'il y a des habitants bricoleurs qui ont envie de donner un peu de leur temps et puis de créer de la solidarité avec leurs voisins et leurs voisines. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir évoluer, rester assez flexible selon les envies du moment et les souhaits des habitants et des associations aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les associations.
Et oui,
des
bien
quartiers.
Sûr, ouais, ou des collectifs.
Exactement.
Tout à fait. Est-ce que malgré tout, il y a des propositions, des envies d'habitants où tout de suite vous mettez un holà, vous leur dites ah non, ça c'est pas possible du tout. Quelles sont un peu les limites? C'est des questions surtout de budget parfois, ou simplement qu'il n'y a pas assez de monde qui participe à l'activité?
Bon, généralement, on essaie quand même de répondre aux besoins. Donc, moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé de
dire
vraiment
non.
Le holà. Ouais. En général, c'est des projets qui rentrent en général dans nos axes de travail. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai l'exemple d'un habitant par exemple, qui est passionné des animaux, et etc., qui a proposé une exposition photo et de valoriser les animaux présents dans le village sud. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est intéressant. Et voilà, on a fait l'exposition dans le hall de la MDH. Il y a eu plein d'habitants qui sont venus pendant plusieurs mois, des élus, des associations, même des écoles. Donc ça aussi, c'est ce type d'initiative, pour nous, c'est important, parce qu'on valorise à la fois le talent d'un habitant, et puis après aussi, ça consolide nos liens avec nos partenaires, que ce soit scolaires ou associatifs, comme le disait Fabien. Et donc non, pas vraiment de mon côté, de holà ou de sujet... qu'il ne faudrait pas faire.
Jusqu'à aujourd'hui. Les demandes ont été raisonnables.
On essaye.
Et de ton côté, Fabien, est-ce qu'il y a eu des propositions qui t'ont surpris là également, où tu as dit, oula, non, là, c'est un petit peu trop ambitieux?
Surpris, non. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à faire des commissions avec les habitants pour leur demander justement, par exemple, quelle activité vous aimeriez qu'on mette en place pour les prochaines vacances scolaires. Et là, effectivement, on est obligé de faire des choix parce qu'on a un budget quand même. Et sur des sorties, par exemple, des sorties l'été, entre aller une journée à la mer, qui peut être très prisée, ou faire deux lacs, les habitants donnent leur avis. On fait on essaie de faire un vote. Et puis, c'est surtout ce genre de commission qui permet un peu de cadrer les demandes des habitants. Quoi. On ne peut pas répondre à tout, ça c'est clair.
Mais
comme dit Julien, en général, par contre, il n'y a jamais vraiment, en tout cas pour l'instant, de demandes extravagantes.
Oui, on essaie vraiment en fait, de construire nos projets avec les habitants. Donc comme le dit Fabien, on va se réunir très régulièrement et voilà, on discute à la fois des activités, de la vie quotidienne, ce qui ne va pas et ce qu'on peut faire pour aider. Donc c'est vraiment comme ça qu'on essaie d'avoir des projets aussi qui correspondent aux envies et aux besoins des habitants. Voilà, pas être hors sol, quoi.
Les maisons des habitants, bien évidemment, dépendent beaucoup de la commune, de la ville, des élus. Est-ce que au sein des maisons, alors là, c'est aussi les directeurs, directrices qui pourraient répondre, mais vous, en tant que membre du personnel, agent développement social, ADS, alors que c'est comme ça qu'on dit. Hein.
C'est ça.
Est-ce que vous avez certaines contraintes, un cahier des charges? Est-ce que vous pose quand même certaines formes de limites? Ou est-ce qu'on vous dit il faut systématiquement que sur des projets, il faut développer telle ou telle chose avec les habitants?
En fait, on a un cadre de travail précis qu'on appelle projet social de territoire. Donc là, justement, on est en pleine finalisation du nouveau. Donc c'est un épais document qu'on rédige pour 4 années. Et dedans, il y a un peu tous les axes de travail sur lesquels, justement, on doit proposer des actions. Donc ça peut être, ça sera donc le développement durable, l'écologie, la lutte contre les discriminations, tout ce qui est accompagnement de la parentalité, participation habitante. J'en oublie un, Fabien.
Sensibilisation, développement durable et,
et
l'écologie.
Donc on a quand même un cadre.
Donc ça veut dire que vous travaillez tous ensemble, tous les agents de développement durable?
En fait, on a chacun...
Je commence à me mélanger partout. Tous les âges, les ADS, tous les ADS des différentes maisons, vous travaillez tous ensemble sur...
Oui, en fait, sur ce projet-là, on s'est vraiment mis en lien pour essayer de faire quelque chose aussi qui ait du sens au niveau de l'ensemble des MDH, parce que nous, c'est aussi un intérêt pour nous, c'est à la fois d'avoir chacun nos spécificités, mais aussi de pouvoir proposer une vision commune et des projets communs. Un événement de ce soir, pour nous, c'est un peu l'aboutissement de notre travail, proposer quelque chose avec tous les professionnels, les habitants de toute la commune. Pour nous, c'est un peu le but de nos actions.
Il y a combien d'ADS? Donc, y en a, vous êtes plusieurs dans chacune des maisons?
Il y en a un par MDH.
Un par MDH, voilà. Ouais, donc vous êtes 4 sur Échirolles.
C'est ça.
Et ça fait combien de temps tous les deux que vous faites ce job ?
Et ben moi, ça va faire 1 an et demi.
D'accord.
Ouais, pareil.
1 an et demi
on
aussi.
On a commencé le même jour.
Au même moment. Ouais.
Ah oui, d'accord. Et vous venez du même endroit, de la même formation. Non, il faut avoir une formation particulière pour ce métier.
Il y a plusieurs types de profils qui peuvent accéder à ce type de poste. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même profil, Julien et moi. Moi, je viens plus de la coordination, de la gestion de projet avant, plutôt dans l'humanitaire et de l'économie sociale et solidaire. Et toi, Julien, c'est...
Moi, je viens plutôt des sciences politiques, en fait.
D'accord.
Donc, il n'y a pas de formation spécifique, mais on va dire que c'est souvent des formations liées au social en général. Mmh. Mais il n'y a pas un diplôme spécifique ADS.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter sur ce métier ?
Moi, avant, j'étais dans le privé, dans un cabinet de conseil qui faisait des études pour les collectivités territoriales. Et moi, je voulais vraiment pouvoir justement œuvrer au plus près des usagers, ce que j'avais pas dans le privé. Mmh. Donc c'était aussi pour ça que je voulais plutôt trouver un emploi dans une collectivité. Et puis c'est vrai que je connaissais pas du tout le métier d'ADS avant, et en voyant l'offre d'emploi et les actions qui étaient proposées à la MDH, j'avais l'impression que c'était une structure qui avait des actions qui avait du sens. Voilà, donc c'est ce qui m'a donné envie. Puis voilà, je suis pas déçu puisque c'est aussi très varié comme activité. Je pense, Fabien, tu seras d'accord. On fait vraiment le grand écart tous les jours, on est sur plein de projets et c'est aussi ça qui est excitant avec ce métier.
Ouais, c'est clair.
Fabien, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter dans cette voie ?
Eh ben, moi, c'est un peu pareil que Julien, mais j'ai fait pas mal d'humanitaire dans les ONG à l'étranger. Et à un moment donné, d'un point de vue éthique, d'un point de vue sur la réflexion, sur le rôle des ONG occidentales dans des pays, je me suis dit, en fait, les gens peuvent très bien s'en sortir et développer des projets eux-mêmes. Et ce serait bien de venir le refaire, en fait, ici, parce qu'il y a plein de trucs cool à faire dans les quartiers ici. Et puis moi, je suis de Saint-Martin-d'Air, donc je suis revenu aussi.
Oui, voilà, j'allais vous poser la question si vous étiez des Grenoblois.
Quand j'étais petit,
dans le sens,
je fréquentais les maisons de quartier à Saint-Martin-d'Air, donc ça paraissait assez logique de revenir dans ce secteur-là.
Et Julien, tu es aussi originaire de...
Pas du tout, moi, je suis du sud-ouest,
okay.
De Pau, donc pas du tout grenoblois, et j'aime bien me bouger, donc par un concours de circonstances, je suis devenu grenoblois. Voilà.
Très bien. Alors évidemment, le contact avec les habitants, c'est fondamental hein, dans votre métier, c'est un peu le cœur. Comment ça se passe justement ce contact ? Parce que c'est pas toujours facile, hein, travailler avec au contact du public. Il y a un peu tous les caractères. Il y a des gens. Bon, j'imagine que globalement ça doit bien se passer puisque vous faites des projets, vous menez des projets avec les habitants, donc ça correspond à ce qu'ils avaient envie. Malgré tout, il peut y avoir parfois des petits clashs. Donc, est-ce que vous êtes amené parfois à vous voir un peu comme des psys, voire même des assistants sociaux ? Il y a des gens qui viennent pour vous raconter un peu leurs problèmes.
Ouais, bien sûr, on est confronté à ça régulièrement. Après, moi, je dirais plutôt médiateur que psy. Hein. Mmh. Souvent, quand on doit faire cohabiter plusieurs groupes de personnes, que ce soit des personnes d'âge, d'associations différentes, dans un même espace, sur des projets communs, oui, on peut avoir un rôle pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble, se rencontrent, se connaissent. Ce qui est cool, c'est quand les gens nous disent, en fait, on se croisait dans le quartier, mais on se connaissait pas. Et en fait, le fait de faire un projet en commun à la MDH, maintenant, on se dit bonjour. Et on a même après qu'ils peuvent se rendre des services, etc. Mais évidemment, à la base, les maisons des habitants, c'est des centres sociaux. On travaille aussi dans des quartiers qui sont touchés par une forte précarité.
Mmh, les problèmes liés aux quartiers populaires.
Exactement. Et donc... Je dirais qu'il y a 50% des personnes qui poussent la porte du centre social déjà pour répondre à un besoin, à un problème social qu'ils rencontrent. Ils ne sont pas là pour faire des projets, un repair café. Mmh. Déjà, il faut régler leurs problèmes qui les handicapent sur le moment dans leur vie. Et ça, on a de la chance, on travaille, on a des assistantes sociales justement, des assistants sociaux qui travaillent avec nous dans les MDH et qui gèrent et qui essayent d'aider au mieux les personnes sur leurs problèmes. Et après, l'enjeu aussi, je ne sais pas tout à Julien, mais je dirais c'est que une fois que les gens poussent la porte de la maison des habitants pour essayer de régler un problème qui les touche à ce moment-là, d'essayer, nous, de les embarquer, et pourquoi pas, s'ils ont envie et qu'ils sont disponibles, sur d'autres projets, pour les sortir un peu aussi de... ou de trouver des solutions en collectif sur les soucis qui peuvent les amener à venir, parce qu'il y a plein de gens qui viennent, finalement, ils ont les mêmes problèmes. Donc, c'est vrai que c'est un peu c'est une partie intéressante de notre boulot, je trouve.
Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'on a tout type d'habitants. On a des habitants qui viennent simplement pour, je sais pas, imprimer un document. Mais après, on discute un peu avec eux et puis on peut se rendre compte qu'il y a d'autres besoins et qu'ils connaissent pas forcément aussi les actions qu'on propose et que, je sais pas, ils peuvent être intéressés par les activités sportives qu'on fait. Et on essaie, voilà, on peut les raccrocher à d'autres projets qu'on a. Donc psy, j'irai pas jusque là. Et puis il y a aussi des psys au niveau de la ville, donc on peut orienter là-dessus si on sent qu'il y a un besoin. Faut aussi valoriser quand même le travail des agents d'accueil, hein, qui sont un peu la vitrine des MDH. Donc c'est aussi eux qui ont souvent le premier contact avec les habitants qui viennent dans la structure, ouais. Qui après vont aussi orienter vers nous, vers les autres services, vers l'assistante sociale, comme disait Fabien. Donc il y a de tout, tous les caractères, effectivement, mais médiateur, effectivement, je pense Fabien a bien résumé notre rôle.
Alors, on parlait aussi de la répartition un peu des tranches d'âge qui fréquentent les maisons d'habitants. On a parlé tout à l'heure avec Nathalie, hein, donc la directrice de la MDH Essart-sur-Yeux. Alors, elle nous disait qu'effectivement, il y avait de tout, hein, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées. La tranche ado, elle n'est pas toujours facile à toucher. Est-ce que eux, ils franchissent les portes des MDH? Ou ça reste aussi une catégorie là entre 13-20 ans, une catégorie de public avec lesquels vous travaillez pas trop?
Alors moi je dirais que ça dépend des actions, mais c'est vrai que c'est pas les ados, c'est pas la tranche d'âge qu'on touche le plus. Nous à la MDH Village Sud, on est mutualisé avec le service jeunesse, donc eux sont plutôt pour les adolescents justement. Donc eux, ils vont plutôt avoir des enfants de 12 à 16 ans à peu près. Après, au-delà de 16 ans, ça commence à être plus difficile de les mobiliser. Mais nous, on peut en avoir sur des sorties famille, par exemple, des sorties lacs, ce genre de choses, des sorties ski, voilà, où là on peut les mobiliser, mais c'est pas le cœur de la fréquentation des habitants, effectivement.
Peut-être parce que c'est pas dans les préoccupations des ados à partir de 15-16 ans, ils sont plus préoccupés par des questions de job, de...
Oui, nous, c'est vrai. Après, avec notre volet accompagnement à la parentalité, on a beaucoup de familles, et avec, en tout cas, nous, au Village Sud, avec enfants plus, relativement jeunes. Ouais.
D'accord. Ouais, puis il y a les collègues des services jeunesse, services des sports, les MJ, en tout cas sur le secteur Essart-sur-Yeux, mais je crois que c'est partout pareil sur la ville des Chirolles, qui font un énorme travail avec les jeunes et qui savent adapter les activités pour les demandes de ce public-là. Donc c'est sûr qu'après... Passé un certain âge, nous, on n'est pas agréé centre de loisirs, on ne peut pas prendre les enfants sans leurs parents. Donc c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, les jeunes préfèrent faire des activités entre eux et laisser les mamans avec les plus petits ou les papas avec les plus petits qui viennent faire les activités avec nous.
Une dernière question, et puis je vais vous relâcher pour profiter des dernières minutes peut-être du spectacle de magie qui a lieu en ce moment à la salle des fêtes. En ce qui concerne les MJC, il y a des voix qui sont élevées il y a quelques temps pour les remettre en question, leur existence. Qui estime que, voilà, je parle de voix politique, qui remettait effectivement en question l'intérêt des MJC, des budgets qui sont alloués, tout ça. Au niveau des MDH, est-ce que parfois vous entendez aussi certaines voix qui peuvent remettre en question l'importance des MDH? Alors, ou pas? Parce que c'est vrai, quand on en discute avec les habitants, avec les gens, le personnel, tout ça, on voit bien que c'est important le travail que vous faites, ce travail de lien social avant tout. Donc ça arrive que vous entendiez des petits échos, des critiques, des remarques qui remettent un petit peu en question le travail de tout le monde?
Alors moi, des critiques pas tellement, on a des personnes qui savent pas ce qu'on fait, donc voilà, qui découvrent. On a des habitants qui sont dans le quartier depuis 20 ans, mais qui sont jamais rentrés dans la structure. Et puis, hop, des fois, on les croise, on leur explique ce qu'on fait. Ils disent « Ah, ben, je savais pas que vous faisiez ça, c'est intéressant. » Sinon, au niveau des habitants, moi, j'ai quand même l'impression que ils sont plutôt très contents de ce qui est proposé. Et pour beaucoup, ils nous disent que c'est un peu un des piliers du lien social qu'ils peuvent avoir, en fait. Pour beaucoup, c'est vraiment là où ils viennent quotidiennement, voilà, pour un peu tout. Donc, c'est... J'ai pas vu vraiment de critique là-dessus.
Ouais, et puis si c'est une démarche politique, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde d'avoir des services de proximité directement dans les quartiers, alors qu'en fait c'est
indispensable.
C'est indispensable, et du point de vue de pas mal d'habitants aussi. Et si les lignes politiques c'est d'écarter et d'enlever de plus en plus la proximité des services publics avec les habitants, je pense que c'est vraiment une très très mauvaise idée. Pareil pour les MJ d'ailleurs, hein. Ils sont notre secteur à Essar-sur-Yeux, la MJ d'Esnos, Saya et toute son équipe, ils font un boulot que même une MDH pourrait pas faire. Déjà, ils ont un statut associatif, donc ils peuvent faire des choses différentes que les MDH ou les autres services de la mairie. Donc, pas entendu, mais j'espère que ça...
En tout cas, au niveau de la commune elle-même, la municipalité, la volonté est toujours là de maintenir ces quatre maisons des habitants. Au niveau du travail qui est fait, donc, on vous remercie tous les deux d'être venus passer quelques minutes avec nous parler un petit peu de ce travail que vous faites au quotidien auprès des Échirolois. Bonne continuation.
Merci.
Merci
à vous deux et merci encore une fois. Allez, on repart en musique comme d'habitude. On va retourner dans la grande salle pour assister à la suite du spectacle. Et puis on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour un nouveau plateau. Je pense qu'on devrait avoir quand même le discours, les paroles officielles des élus qui viendront nous parler effectivement de l'importance de ces maisons des habitants sur le territoire échirolois. Donc rendez-vous un petit peu plus tard tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Vendredi 22 décembre 2023, c'est la fête des maisons des habitants à Échirolles.